Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, notre invité s'appelle Sylvain Pioche. Sylvain, vous êtes donc docteur en géographie et à ce titre, vous dirigez des recherches, mais vous êtes aussi ingénieur écologue, maître de conférence à Paul Valéry, éco-concepteur, vous relevez les impacts des ouvrages écologiques, vous vous occupez de la réparation écologique marine. Enfin, à Montpellier aujourd'hui, vous avez de quoi travailler un peu partout. Donc, vous êtes typiquement un chercheur nouvelle génération, c'est-à-dire vous avez abandonné finalement la recherche en silo pour attaquer le réel dans toute sa complexité. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Bonjour d'abord.
Bonjour. C'est agréable d'entendre qu'on est une nouvelle génération à 50 ans.
Ah mais c'est pas grave, c'est quand même
Merci
vrai quand même.
Donc oui, je travaille à l'Université Paul Valéry Montpellier 3 dans le laboratoire LAGAM, qui est un laboratoire de géographie qui s'intéresse aux relations de l'homme à l'environnement, comme tout géographe. Et ma spécialité, donc, c'est l'aménagement des territoires, c'est-à-dire la façon dont les êtres humains habitent l'espace, c'est-à-dire comment ils vont disposer avec ordre des établissements pour le développement de l'espèce humaine, mais aujourd'hui en intégrant le développement durable, c'est-à-dire les éléments du vivant, ce qu'on appelle aujourd'hui les non-humains, en référence à Philippe Descola, qui sont en interaction
Alors,
avec
Philippe
nous.
Alors Philippe Descola, on rappelle, puisque vous le citez, qui c'est ?
C'est un anthropologue donc, qui est professeur au Collège de France.
Voilà, mais quelqu'un qui est important parce que c'est quand même assez rare. Il a mis en doute la notion de nature et c'est quelque chose quand même de peu courant.
Voilà, il a questionné notre définition et notre relation en Europe dans un système social, civilisationnel qui est différent de ce qu'on peut trouver dans les peuples dits primitifs, mais en fait qui sont nos grands frères. Sur la Terre, dans la relation avec ce qu'on appelle nous, la nature, et qui pour eux est fraternelle,
eux-mêmes,
et bien qui fait partie d'eux-mêmes. Donc ils peuvent rêver d'une plante qui vient leur parler et qui n'est pas contente parce qu'on a dégradé un espace. Ils parlent aux frères Capybara, à la sœur Lune, aux frères Soleil. Ça ressemble un peu à Saint-François d'Assise. Dans le premier millénaire, qui lui aussi avait une relation avec la création de fraternité et de non-barrière, parce qu'on est tous issus de la Terre et de cette merveilleuse création, la nature.
Et donc, quand tout à l'heure je parlais de nouvelle génération de chercheurs, c'était à cela que je faisais référence finalement, parce qu'à une époque, qu'est-ce qui ferait par exemple la différence entre un géographe dans le temps et vous ? Comment vous définiriez cette différence ?
Alors, il n'y aurait pas de différence fondamentale étant donné que Paul Vidal de Lablache, Emmanuel de Martonne, enfin des grands géographes français ou Élisée Reclus, par exemple, a écrit au XIXe siècle un ouvrage sur « Penser comme une montagne », la vie d'un ruisseau. Et ces gens-là avaient une approche qu'on appelle aujourd'hui de manière un peu envieuse, encyclopédique des choses, ou François Doumange à l'université Paul Valéry, par exemple, qui a créé la réflexion autour de l'océanographie à Montpellier 3 en géographie. C'était des gens qui envisageaient l'espace comme il se doit, c'est-à-dire avec la diversité de ce qui constitue un territoire économique, social, mais aussi écologique, anthropologique, ethnographique, physique, biologique. En fait, ils n'avaient pas de limite. Et ce qui s'est passé avec l'explosion des outils, de la connaissance, qui sont très bonnes, le raffinement en écologie, qui est une nouvelle, enfin, qui est une discipline fille de la biologie, mais qui a énormément évolué par sa vision systémique, justement, c'est que ces savoirs encyclopédiques n'ont plus pu tenir la somme des sciences. À l'époque aussi, c'était des génies d'ailleurs, hein, ces gens-là, faut être très clair. Un encyclopédiste comme Rousseau, pour moi, c'est un géographe. Ou Diderot, voilà, ce sont des géographes. Parce qu'ils ont une vision de l'explication de la trajectoire de l'humanité qui ne se contente pas d'un seul angle d'attaque, c'est-à-dire purement économique, Mais d'ailleurs, quand je discute avec des collègues, personne n'a vraiment cette vision en silo. Elle est assez caricaturale parce que, évidemment, que pour expliquer un phénomène, on a besoin de convoquer les différentes dimensions qui vont, à partir d'une pression, c'est-à-dire à partir d'une relation de l'homme à son territoire, vont générer des impacts, c'est-à-dire une réponse.
Mais ça vous paraît, à vous, quelque chose maintenant d'acquis. Mais je peux vous dire que je rencontre, par exemple, des économistes qui ont une vision extrêmement barricadée de leur savoir, hein, qui n'ont pas du tout encore ce réflexe d'association d'autres disciplines.
Alors ça, c'est un point un peu particulier qui est lié au système professionnel, mais on ne parle pas de la pensée des gens avec qui moi je collabore. Donc le système professionnel nous impose dans nos disciplines d'avoir une réflexion disciplinaire, c'est-à-dire de connaître nos pairs, ce qui est bon, et ensuite, au sein de la géographie, d'employer une terminologie qui, parfois, je trouve personnellement, nous coupe d'échanges avec des sociologues, des économistes, et chacun dans ces disciplines, nous sommes obligés de maîtriser un lexique, de maîtriser une terminologie.
Donc, en fait, c'est un langage. En fait, c'est un langage qu'il faut réussir à partager.
Alors, c'est un langage qu'il faut réussir à maîtriser dans sa discipline. Et une fois qu'on l'a maîtrisé, de le dépasser, ce qu'on appellerait la déconstruction. Quand on regarde les tableaux de Soulages, par exemple, au musée Fabre, Soulages, jeune, faisait des superbes natures mortes à 17, 18 ans, des dessins de nus à couper le souffle. Et ensuite, il s'en est départi, c'est-à-dire qu'il a déconstruit pour aller à l'essence même du geste ou de la puissance, finalement, de ce que lui devait amener à sa discipline, l'art-picture, la peinture, à travers un abstrait qui n'est pas abstrait quand on l'écoute. Et je pense que c'est ça qui est compliqué. C'est difficile de sortir, c'est-à-dire c'est difficile de tuer le père. On a toujours un peu peur. C'est-à-dire, une fois qu'on maîtrise nos disciplines, ce que vous appelez holistique, ce que tu appelles holistique, Dominique, c'est vrai qu'on peut être tenté d'y rester et de rester dans nos disciplines. Mais en fait, ce que je vois aujourd'hui, mes collègues, pratiquement tous mes collègues au LAGAMP, si je prends ce que je connais, on peut ne parler correctement que ce qu'on connaît, nos projets sont tous interdisciplinaires. Voilà. Avec des écologues, personnellement, je travaille avec beaucoup d'écologues, avec des historiens, avec des artistes.
Merci pour cette mise au point. Et ça nous réjouit un petit peu sur ce qui se passe à Montpellier, mais je peux vous promettre que c'est malheureusement pas encore partout comme ça. Alors, vos travaux sont excessivement variés. Comment avez-vous, justement, ça poursuit un peu la réflexion qu'on avait aujourd'hui, mais vous avez commencé comme plongeur sur les énergies marines au Japon, et vous finissez aujourd'hui dans une faculté où vous enseignez la manière dont on va refaire le paysage. Donc, expliquez-nous un peu tout un cheminement, en essayant d'être court, parce qu'on a un millier de choses à voir ensemble.
Mais pour moi, c'est logique. si vous voulez, finalement, à un moment donné, on passe un diplôme à l'université qui s'appelle l'habilitation à diriger des recherches pour diriger des thèses. On se retourne sur notre carrière et on regarde quel est le fil conducteur. Et c'est un travail très intéressant. C'est ce que font les gens dans le privé à un moment donné quand ils veulent changer de carrière. Vous savez, ils font un bilan de compétences. Vous voyez ? Et moi, ce que j'ai compris finalement, c'est que de l'extérieur, les gens me disaient « Oh là là, mais toi, tu pars dans tous les sens. » Et c'était leur vision, parce que justement, je n'avais pas compris quel était mon fil conducteur. Et aujourd'hui, quand j'explique mes travaux, pratiquement plus personne me dit que je pars dans tous les sens. C'est-à-dire que j'ai compris, mais c'est moi qui n'avais pas réussi à expliquer la logique, ce fil qui me tirait, mais c'était plus fort que moi d'ailleurs, pour aujourd'hui, mais il faut du temps effectivement, comprendre la logique et finalement l'intrication, c'est-à-dire comment mon expérience, finalement, il y avait une logique qui était plus profonde que moi, que je n'avais pas compris avant de faire ce travail d'habilitation à diriger les recherches, mais qui est aujourd'hui facile à expliquer. Je suis mu par l'envie qu'il y ait des poissons dans la mer et que ces poissons, mes enfants les voient.
Voilà. Et donc, finalement, mais vous voyez, donc on rejoint quand même ce que j'évoquais dans un premier temps, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on est capable justement d'avoir un sens, je le dirais plus simplement, de donner un sens à toutes ces activités, eh bien, à ce moment-là, souvent, on est accusé. Ben, moi, je vois, par exemple, vous lisez les réseaux sociaux, vous vous apercevez que des gens aussi différents qu'Emmanuel Macron, qui est président de la République, que François Gémen, qui est scientifique, ces gens ont une mémoire, enfin, ont une intelligence, ont un sens incroyable, et on les accuse de faire tout et n'importe quoi, parce que, justement, ils regardent un peu dans tous les sens. Or, c'est dans tous les sens qu'on a. Alors, vous avez donc, vous connaissez l'océan par le fond, vous connaissez l'océan par sa surface et vous connaissez maintenant l'océan sur une dimension qui est celle qui envahit qui nous envahit. Alors, vous êtes tout à fait prêt pour la grande conférence, ou en tout cas la manière dont on essaie d'appréhender aujourd'hui l'océan, qui n'est plus une surface, mais qui est un ensemble en trois dimensions.
Absolument, ouais. On a, avec mon collègue Denis Lacroix d'Ifremer, on a travaillé sur justement le caractère tridimensionnel de l'espace sous-marin, qui était vu effectivement comme un espace plat, accessible aux yeux des terriens, alors que il faut imaginer le monde marin comme un milieu où il y a des vaches qui peuvent voler, ébrouter des mottes d'herbe qui se baladent entre les nuages
alors
et le sol.
Alors les vaches dont vous parlez, c'est les poissons, quoi.
Voilà. Voilà, des sardines qui vont grignoter du phytoplancton qui flotte comme ça, dispersé. Et puis au fond, l'effet cesse de ces sardines vont nourrir d'autres espèces, des microfiltreurs, des micro-carnivores qui vont nourrir des petits carnivores et puis des moyens, des gros. Et toute cette chaîne, en fait, elle est en boucle. Et là-dedans, il y a l'être humain qui a sa place comme prédateur pour prélever, mais dont il a aujourd'hui la nécessité impérieuse de rééquilibrer. C'est-à-dire qu'on a perdu cette notion de responsabilité qu'on avait pendant les siècles parce qu'on n'avait pas la capacité de surexploiter. Et j'insiste bien sur la surexploitation, puisqu'en tant qu'être vivant, on doit exploiter notre milieu comme toutes les autres espèces l'exploitent. Ce n'est pas un souci. Le souci, c'est lorsque cette exploitation déséquilibre des milieux dont on a besoin. Jusqu'ici, on pouvait dire qu'on n'était pas au courant, enfin, jusque dans les années 50-70, les sauts scientifiques qu'on connaît en écologie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est un comportement égoïste et irresponsable que d'avoir une relation de surexploitation de son environnement, de l'échelle individuelle.
Mais vous croyez qu'on va y arriver
à l'échelle. Ben, c'est mon travail d'enseignant.
C'est votre travail, mais...
D'enseignant. Ouais, d'enseigner ce que je suis en train...
On s'aperçoit que, finalement, ça peut être remis en question en quelques secondes.
Alors, il faut distinguer la surface...
Je pense à Trump, par exemple. Donc, ouais. On en a discuté déjà ensemble. Et vous dites, oui, mais il ne faut peut-être pas regarder seulement l'écume. Voilà.
Voilà. Ben, vous avez tout résumé. Pour moi, c'est le mouvement est bien plus profond que ces effets médiatiques de séduction de la plèbe qui sont du pain, des jeux, c'est tellement
connu. Mais est-ce qu'il va pas gagner ?
Comment ça gagner ?
Est-ce que c'est pas cette facilité là qui va finalement emplir le monde ?
Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que avant le phénomène Donald Trump, c'était des pays plutôt qu'on traitait avec condescendance, qui avaient ce genre d'attitude avec l'environnement, plutôt des pays qui étaient dans le pur économique, etc. Avec Donald Trump, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est quelqu'un comme nous. C'est-à-dire, c'est un pays qui vit à la mode occidentale, qui est basé sur un système capitalistique libéral, voire ultra-libéral, basé sur l'accumulation des richesses, dénoncé par les rapports Meadow et bon, façon, tous les grands penseurs aujourd'hui, depuis plus de 50 ans et même avant. Hein. Mais jusqu'ici, on n'avait pas d'exemple dans notre sérail. C'est-à-dire, même si je suis d'accord avec vous, l'affichage ne ressemblait pas à la réalité, il y avait quand même un affichage de dire « Bon, attention, il faut du développement durable. Bon, OK, on fait des centrales nucléaires, mais on travaille sur les déchets, comment on peut les recycler, etc. » Alors que là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement débridé dans le sens « On s'en fout ». C'est Fred Vargas, hein, dans son roman. « Ah, on va se goinfrer, on se régale et on s'en fiche. » C'est-à-dire un comportement selfish, c'est-à-dire d'égoïsme, affiché, c'est-à-dire je me moque de vous. Si vous avez besoin que je vous sauve.
Mais si ça gagne.
Mais non, mais ce que ça va provoquer chez les gens, c'est de dire mais attends, mais en fait, est-ce que je suis un billet de banque? C'est-à-dire quand.
Donc vous regardez l'autre moitié du verre, quoi.
Mais non, mais c'est surtout que l'être humain, il a besoin d'être secoué pour changer. On est des espèces juvéniles dans une adolescence liée au système de consommation qui nous entretient dans un idéal de plaisir. Finalement, qui n'est pas le bonheur ou la joie profonde, ça, les philosophes, l'éthique, la morale nous l'enseignaient. Et pour secouer un adolescent, ben, à un moment donné, il faut le mettre face à ses contradictions. Mais tant qu'on ne les touche pas, tant qu'on ne les contacte pas, on se dit ouais, j'ai la flemme, bon, je verrai plus tard. Bon, oui, bon, mais finalement, il y a quand même. Là, on peut positivement, c'est-à-dire blanc, noir, sans être manichéen, mais. Ah, mais est-ce que c'est ça que je veux? C'est-à-dire, est-ce que je veux qu'une puissance militaire vienne m'aider uniquement parce que j'ai des ressources minières qui l'intéressent? Est-ce que j'ai du sens pour le regard d'une personne parce que j'ai un compte en banque? Oh, mais ça, c'est intéressant. Enfin, parce qu'on a résumé beaucoup de la réussite chez nos jeunes à la quantité de dollars et d'euros. Et quand vous demandez à des jeunes aujourd'hui, plutôt enfin, avant l'université, je trouve, hein, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il vous dit, je veux être riche.
Bien sûr.
Voilà. Et ça, c'est super quand Donald Trump vient de dire, ben, regardez ce que ça amène à être riche. Ça amène à ne considérer l'être humain que pour son compte en banque. Ça n'amène à considérer la détresse dans le monde que si on a un intérêt à les aider économiques.
Bon, alors, je vais vous arrêter un tout petit peu parce que...
vous comprenez ce que je veux dire?
Il faut, bien sûr, je comprends tout à fait, mais je pense qu'on ne va pas quand même philosopher pendant toute la durée de notre émission. Et même si j'en partage, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire parce qu'on est à un moment de basculement et c'est certes ce moment-là où il faut réintroduire justement du questionnement, et vous avez tout à fait raison de le faire.
Sans minimiser les pertes et les dégâts que ce comportement génère aujourd'hui. Attention, donc, je ne suis pas en train de dire « Ah, c'est super, voilà. Donald Trump va nous aider ». Pas.
Alors,
il fait un mal énorme à tout un tas d'acquis qu'on avait grâce à des ententes internationales scientifiques. Moi, je travaille à l'Université de Miami depuis le mois de février. Les deux projets que j'avais avec eux sont suspendus. Donc, c'était la direction du génie civil et d'aménagement en génie civil côtier, c'est-à-dire des digues, des éoliennes, etc., conçus dans un objectif de stockage du carbone bleu dans la mer, c'est-à-dire que ces ouvrages permettent à la biodiversité de se développer et donc de diminuer l'impact des gaz à effet de serre sur la planète. Bien, mes collègues, les deux avec qui je travaille, m'ont dit, écoute, notre programme est suspendu, on n'a même plus le droit d'employer « climate change », on doit parler de génie civil et de construction.
Oui, alors, donc, vous avez, ça, c'est, on rentre en plein
donc c'est
quand même dans votre... C'est, bien sûr, c'est grave.
Voilà, je veux juste le dire.
Mais justement, mais on va le voir très, très bien, enfin, on va le voir bientôt, puisque du 3 au 13 juin à Nice, on se rejoint Sur ce problème de l'océan, qu'on a des choses extrêmement graves, justement, à légaliser, enfin, en tout cas, à noter, à intégrer, qui n'ont jamais été faites, qui est, en tout cas, le problème de l'exploitation des fonds marins et qui est le problème des aires marines protégées. Mais on a vu que, justement, déjà le coup de canif de Trump était dans la... était déjà là, puisque bien avant la réunion, il a fait exprès d'envahir l'aire marine protégée du Pacifique à côté des États-Unis pour bien montrer que le droit, il s'assoyait dessus. Alors, est-ce qu'on va réussir cette réunion ?
Réussir.
La joujou, Madame Soleil.
Ouais, non. Enfin, oui, je comprends ton enthousiasme. Bien sûr qu'il faut... être rempli d'espérance en y allant, c'est-à-dire... je voudrais juste dire que... Donc moi, je suis invité à faire une présentation le 9 juin, donc dans le cadre de la Commission européenne, dans la Green Zone, donc si tu veux expliquer ce que c'est la Green Zone.
Bah, la Green Zone, c'est là où, en fait, on va trouver les ONG. Mais justement, voilà. Ça va me ramener à quelque chose qui m'a un peu choqué.
Et les policymakers dans la Green Zone, il y a les deux.
Enfin, il y a
ben, les représentants des gouvernements liés aux politiques environnementales qui viennent rencontrer les ONG.
Ils viennent rencontrer les ONG, mais...
En tout cas, moi, je fais une table ronde où il y a cette rencontre avec la Commission européenne.
Les industriels également.
Oui,
mais le gros du gros, c'est-à-dire la décision et la législation, si elle se met en place, la ratification des conventions, c'est-à-dire le côté... contraignant et non pas seulement j'aimerais que ça se passera pas là, ça se passera dans la zone bleue. Donc évidemment les ONG espèrent que comme d'habitude et c'est souvent le cas, c'est souvent ce qui s'est passé, c'est souvent dans le lieu non étatique que les choses ont avancé, ont émergé. Donc espérons-le. Mais il y a quand même une aujourd'hui une autre manière de voir qui est de donner tout pouvoir aux scientifiques.
Alors tout pouvoir, les scientifiques ce sont pas les politiques, hein. C'est important de comprendre
Oui, sauf qu'on dit les ONG, les industriels, etc., ils ont tous des intérêts, tandis que les scientifiques n'en ont pas, c'est-à-dire faire comme si la science subitement n'avait pas d'intérêt. Est-ce qu'on peut dire ça?
Ben, la science, elle n'est pas hors sol. Elle fait partie d'une société, elle fait partie d'une réflexion qui peut être culturelle, les scientifiques. Par contre, la différence avec les ONG, les entreprises, c'est que la science utilise des outils et des méthodes dont la reproductibilité dans les mêmes cadres, avec les mêmes outils et les mêmes concepts, doivent reproduire, si ce n'est exactement les mêmes résultats, mais pouvoir être comparés entre eux pour regarder soit des évolutions, soit vérifier et conclure qu'on est dans les mêmes résultats. Et ça, c'est très important, premièrement. Et deuxièmement, il y a une vérification par les pairs des travaux qui dit quoi ? Qui dit, dans un monde idéal, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais les travaux qui ont été réalisés par une équipe peuvent être critiqués et reproduit par une autre équipe indépendante de la première équipe. Ça, c'est très important, cette notion d'indépendance dans la vérification qui nous différencie dans les approches.
Alors, je vais un peu interrompre notre réflexion sur la recherche, sur ce que vous faites, pour que vous nous racontiez un petit peu ce que vous avez mené, parce qu'il nous reste en gros 5 minutes avant la fin de cette émission, donc les choses vont très vite. J'ai eu l'occasion d'inviter à cette antenne une de vos thésardes qui s'appelait Norella Voisieux, et elle avait fait un travail de consultation populaire sur les villes du littoral qui pouvaient être touchées par la montée des eaux, et notamment sur Marseillan. Bon, elle a fait un excellent travail. Et ma question, je voudrais savoir aujourd'hui, une fois qu'elle a eu sa thèse, comment
Post-doc.
Ce travail...
Post-doc.
postdoc, je ne sais pas. Et comment ce travail est suivi? Est-ce que ça tombe dans un gouffre, ce travail, ou bien quelqu'un s'en charge?
Alors nous, on avait la chance dans ce travail d'être en financement avec la région Occitanie, la direction de la mer, et avec la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire la banque des territoires, qui sont un acteur politique, un acteur de dynamisme des territoires. Donc Norelia, dans le cadre de son postdoc, avec une thésarde Maëlle Banton, qui va soutenir le 19 juin à l'Université Montpellier, c'est une soutenance publique, sur les outils de concertation qui s'appuient sur des instruments audiovisuels pour favoriser justement le débat auprès de citoyens qui ne seraient pas au courant, par exemple, qu'il y a une information ou qu'il y a une plateforme en ligne pour échanger. Donc ces outils audiovisuels permettent de dynamiser la concertation.
Oui, parce qu'il faut, que les gens prennent conscience aujourd'hui de ce qui les menace. Et ils ont tendance à se cacher les yeux et faire du déni. Donc il faut attaquer.
C'est un peu différent. Là, l'idée, c'est plutôt de via les réseaux sociaux et via... De toute façon, on est passé à la vidéo moins qu'au texte, pouvoir, avec un cadre scientifique sur des méthodos, donc elle a développé 6 outils vidéo, Maëlle Banton, amener les gens à venir débattre, leur donner envie, grâce à des systèmes de teasing, à des réflexions sur quel est le point focal, à partir d'enquêtes de territoire, pour savoir qu'est-ce qui est dans les perceptions des gens, qu'est-ce qui est la priorité et qui va les intéresser. Et donc les vidéos permettent d'aller sur ces priorités, intéresser les gens.
Donc, elle suit le travail un peu de Norelia.
Alors, donc, je disais, la région Occitanie, bien sûr. Aujourd'hui, Alexandre Richard, qui est en charge de l'évolution du trait de côte, de la stratégie régionale de gestion du trait de côte, utilise les résultats de ses travaux. J'étais il y a encore 2 mois avec la CNDP dans un séminaire où nous discutions de ces résultats pour permettre de les diffuser auprès de l'ensemble des communes du littoral, avec l'appui de la région.
Donc ça se
poursuit. Je suis confiant.
Alors, vous avez aujourd'hui réussi, en fait, à persuader un peu. Vous poursuivez ce travail sur la côte, d'aménagement de la côte, et quelles sont les grandes urgences? Parce qu'on
Alors,
a plus que 2 minutes.
Mes priorités, moi, effectivement, aujourd'hui, en termes scientifiques, c'est d'avoir un aménagement qui évite les impacts au maximum, qui les réduisent ou qui les compensent lorsqu'il y a une dégradation significative du milieu.
Tout cela est bien savant, cher ami.
Voilà. Donc l'idée, c'est, je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on travaille avec les pêcheurs de Sète, la Satoan, un projet qui s'appelle Fish Wind, où on va discuter avec les développeurs de plateformes liées offshore pour regarder comment ces plateformes pourraient accueillir des récifs artificiels pour les poissons ou être modifiées dans leur structure pour qu'elles soient colonisées par des espèces qui vont rentrer dans la chaîne, le cycle d'autres espèces, en termes de ressources trophiques, par exemple de nourriture, pour augmenter les ressources, donc augmenter la biodiversité, dont une part de cette biodiversité pourrait être utilisée par les pêcheurs dans le cadre d'une activité de pêche qui soit une pêche de palangre, de casier, c'est-à-dire la moins destructive sur les fonds.
On essaie en même temps de protéger l'espèce.
Alors, c'est pas une protection, c'est justement une gestion. La gestion, ça veut dire que les acteurs de ces milieux, les pêcheurs, qui sont depuis des millénaires sur ces territoires, se réapproprient les équilibres et recommencent à comprendre de manière plus fine avec les développeurs éoliens qu'est-ce qu'on peut développer comme ressources et qu'est-ce qui peut être ensuite utilisé pour des activités humaines, mais de rechercher justement ce gagnant-gagnant entre l'homme et l'environnement, et que le pêcheur, maintenant, aille demander aux gens qui vont créer ces ouvrages en mer qu'ils pensent à la biodiversité, non seulement pour développer la biodiversité en elle-même, les pêcheurs sont très concernés par cette érosion de biodiversité, quoi qu'on en pense, enfin, ce que je connais, voilà, je ne veux pas généraliser, et en même temps, qu'une part de cette biodiversité serve à nourrir les êtres humains sur les côtes et perpétrer un savoir et une culture qui est merveilleuse en Occitanie. On est en Méditerranée, on est sur plus de 6 à 8 000 ans avec le site de la Tara, de connaissances, de migration des espèces et de pêche avec des hameçons taillés dans l'os. Enfin, c'est magnifique. Voilà, à l'université, on travaille beaucoup sur ça aussi.
Bon, alors, de toute façon, l'émission précédente, on a redécouvert une forêt sous-marine. Alors,
voilà. Oui,
donc,
à Palavas.
Alors, Sylvain Pioche, on aura l'occasion sans doute de se reparler. Et puis, de toute façon, on se retrouvera à Nice, oui, à l'UNOC. Et donc, on poursuivra cette discussion.
D'ailleurs, à Nice, je vais présenter ce que je viens de vous relater, à savoir des projets qui donnent de l'espérance sur lesquels, justement, cette relation gagnant-gagnant entre l'homme et l'environnement, avec l'éco-conception, pourrait servir d'exemple à travers le monde, puisque c'est une conférence mondiale.
Donc, c'est notre dernier mot.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.